divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez peut-être, la Grande Loge de France est une fédération de loges. Chaque loge constitue l'unité de base de la vie des francs-maçons, le creuset intime de leur chemin initiatique. Cette émission étant celle de la Grande Loge de France, il nous est apparu assez naturel de donner aux loges une nouvelle place. Comme vous le savez aussi, chacune de nos loges, presque 1000 aujourd'hui au sein de la Grande Loge, porte un nom bien spécifique. Nous disons un titre distinctif, qui n'est pas choisi au hasard et qui dit même beaucoup des frères, de l'histoire de notre obédience et même de l'histoire en général. Imaginez des loges aux noms tels que la Jérusalem écossaise, Art et Travail, le Contrat Social, Goethe ou encore Jean Jaurès. Alors pour ouvrir chacune de nos émissions, nous évoquerons dorénavant une loge par son nom. Et pour débuter cette série, honneur à une des toutes dernières loges qui intégrera notre obédience dans quelques jours, la loge Hubert Germain à l'Orient de Marseille. Hubert Germain, ultime survivant des Compagnons de la Libération et à ce titre inhumé dans la crypte du Mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Hubert Germain qui, à la suite de l'appel du général de Gaulle, rejoint Londres et les forces françaises libres dès le 24 juin 1940. Il n'a que 19 ans. Hubert Germain, héros de Bir Hakeim, de Monte Cassino et du débarquement de Provence. Hubert Germain, homme engagé, homme politique, député et ministre de la République. Hubert Germain, franc-maçon de la Grande Loge de France et franc-maçon de rite écossais ancien et accepté, grand maître honoris causa de notre obédience qu'il faut absolument lire dans son ouvrage « Espérer pour la France ». Hubert Germain qui, je crois, n'aimait ni les hommages ni les honneurs, Hubert Germain simplement fidèle à son seul devoir, dont une loge de la Grande Loge de France portera désormais le nom et avec son nom, un idéal. Alors longue vie à la respectable loge Hubert Germain. Engagement, combat, jeunesse, c'est aussi le sujet de notre émission de ce jour consacrée à l'appel 2024 de la Grande Loge de France, souhaité par le grand maître Thierry Zaveroni, un appel pour la fraternité et la paix. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui deux personnalités de l'obédience qui ont contribué à ce texte collectif. Brice Châtel, grand officier à la communication, et Jean-Michel Dardour, ancien premier grand maître adjoint de la Grande Loge de France. Cher Brice, cher Jean-Michel, bonjour.
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 Alors, une première question très simple. Pourquoi la Grande Loge de France prend-elle la parole avec cet appel et quel est le contenu de cet appel, Brice Châtel ?
Bien, bonjour à tous et merci de nous recevoir pour parler de cet appel pour la fraternité et pour la paix. C'est le deuxième que lance la Grande Loge de France. Le premier avait été lancé il y a 4 ans, au moment de l'assassinat de Samuel Paty. Et force est de constater que les valeurs que nous portons sont constamment remises en cause depuis ces 4 ans. On parle du conflit en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient. La multiplication d'actes antisémites, enfin, et j'en passe. Et donc, il nous a semblé important de faire cet appel pour revenir sur les valeurs que nous défendons et que nous tentons de promouvoir, avec un appel qui reprend un certain nombre de contributions, vous l'avez dit, sur la fraternité et sur la paix. Je vais vous en donner quelques illustrations avec des titres. Osons la paix, les trois belles lumières de notre spiritualité, jeunesse et citoyenneté, droit, devoir et justice, réflexion pour un homme libre. Et donc, au travers de cette dizaine d'articles, on essaye de revenir sur ces valeurs qui nous semblent importantes de promouvoir et de protéger au quotidien.
La Grande Loge de France lance donc un appel, on dit la franc-maçonnerie pourtant secrète. Que peut-elle dire au monde ? Quelles sont les valeurs qu'elle peut transmettre, Jean-Michel Dardour ?
Alors, tout d'abord, je trouve que c'est une très bonne chose que la Grande Loge, dont nous savons que la parole est rare, fasse un appel à la paix et à la fraternité, comme l'a dit Brice. Il y a des moments où il est indispensable de prendre la parole, et notamment ce tragique anniversaire de l'assassinat du professeur Dominique Bernard, il me semble que c'était vraiment un moment important. Alors, la première des valeurs, puisque vous me posez la question, que doit transmettre la franc-maçonnerie, c'est son ADN, c'est-à-dire la fraternité universelle, évidemment. Mais le problème, c'est que cette fraternité, elle est extrêmement difficile à définir. Elle est beaucoup plus vécue en loge que théorisée. Et puis, comme vous le savez, il existe aussi des fraternités qui divisent, des fraternités qui ne conviennent qu'à ceux qui en font partie et qui excluent les autres. Les musulmans se nomment frères, les juifs se nomment frères, les chrétiens se nomment frères, les francs-maçons se nomment frères, les militaires se nomment frères d'armes. Mais pour celui qui n'a pas participé à la guerre, il est exclu de cette fraternité d'armes, voyez ce que je veux dire. Donc nous, nous prônons une fraternité universelle. Et même si nous sommes tous issus de communautés, cette fraternité nous oblige à faire un pas vers l'autre. Et ça, c'est le plus important, faire travailler ensemble des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Et à ce titre, je crois qu'on peut dire qu'elle n'a jamais été autant d'actualité. Car nous avons besoin, il me semble, dans notre pays, d'un nouveau récit. Un nouvel idéal pour faire renaître ce lien social qui s'est constamment délité. Et donc, nous, francs-maçons et francs-maçonnes, nous cultivons une certaine méthode, une culture de l'altérité qui nous conduit à lutter contre l'insignifiance et contre l'indifférence.
Vous évoquez l'altérité, mais vos deux contributions abordent la question justement de l'individualisme dans nos sociétés. Brice Chatel, dans votre texte, vous nous dites même « La franc-maçonnerie réconcilie ainsi le franc-maçon avec la notion d'effort et de devoir pour parvenir à un objectif, à un idéal, alors même que nos sociétés évoluent vers toujours plus d'individualisme et d'exigence de droits individuels. » C'est donc un idéal maçonnique extraordinaire, mais comment réaliser cet idéal dans cette société si individualiste ?
Alors, quand on rentre en franc-maçonnerie, on prend l'engagement de participer à l'amélioration intellectuelle et morale de l'humanité. Alors, c'est un vœu, par définition, un idéal et quelque chose qu'on n'atteint potentiellement jamais, mais en tout cas, nous œuvrons pour tenter de nous en rapprocher. Et donc, en rentrant en franc-maçonnerie, on tente de donner ou de préciser le sens de notre vie, mais d'une vie qui n'est pas celle d'un solitaire, ni celle d'un mystique, qui est celle d'une vie qui inclut l'autre, qui lui redonne toute sa place. La franc-maçonnerie, c'est une démarche individuelle, pas individualiste, au sein d'un collectif. Et cette construction se fait autour des valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité, que nous tentons chacun à notre niveau de protéger, mais aussi de promouvoir. Et nous tentons de travailler également sur la construction de cet idéal, sur deux piliers qui sont la pensée et l'action.
Jean-Michel Dardot, vous critiquez aussi beaucoup cet individualisme moderne. Comment échapper à cette vie égotique et vide ? Dans votre texte, vous évoquez un candidat qui postulait à la Grande Loge de France et qui avait écrit dans sa lettre de motivation ces simples mots « tout seul, tout le temps ».
Alors c'est un peu terrifiant, mais c'est quand même souvent une réalité pour nombre de nos contemporains, cette solitude. Et puisque vous m'interrogez sur l'individualisme, je pourrais ajouter à ce « tout seul, tout le temps » la notion de tout de suite, imposée par la mondialisation. Le monde des réseaux sociaux, du smartphone. Il faut tout posséder, il faut tout accumuler, sans attendre, sans se soucier de l'autre. Or, notre culture maçonnique, à l'inverse, nous invite à vivre dans un temps plus large. Avec patience, avec les autres. Plutôt qu'à exister dans une vie vide, une vie égotique, une vie absente, où seul compte le nombre de likes que l'on obtient sur son smartphone, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Un langage de plus en plus simpliste, celui des émojis, qui crée des sans-abri spirituels. Alors, moi je crois que nous avons besoin de revenir sur cette hubris, sur ce tout de suite. Et lorsqu'Albert Camus dit « un homme, ça s'empêche », un homme, ça s'empêche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut poser des limites. Il faut mettre des limites à ce progrès exponentiel dont nous savons qu'il épuise la planète et qu'il est intenable. Revenons à des valeurs simples, à une common decency, comme disait George Orwell, une décence commune. Mettons en avant la raison et l'amour, combinés ensemble, contre les pulsions.
Vous évoquez ce tout de suite, ça veut dire que l'initiation maçonnique, c'est aussi l'expérience d'un temps plus long ? Jean-Michel ?
Ah oui, tout à fait, mais évidemment. Nous sommes dans un temps sacré, un temps qui est en dehors du temps. La loge, c'est ce lien qui se crée entre les uns et les autres. C'est une sorte, j'appelle ça souvent une espèce d'oxymore, la loge. C'est un enracinement dynamique. C'est-à-dire, on apprend dans la loge l'art d'habiter pleinement le monde, pas seulement d'accumuler et de posséder.
Brice Chatel, votre contribution est aussi un appel à la jeunesse. Nous évoquions à l'instant la figure d'Hubert Germain, qui lui aussi a répondu à un appel. Il n'avait que 19 ans, comme je l'ai rappelé. Quel est cet engagement de la jeunesse que la franc-maçonnerie peut accompagner ?
Alors déjà, je suis prudent sur cette catégorie de la jeunesse, puisque nécessairement c'est une catégorie qui est plurielle, avec des réalités diverses en son sein. Ceci étant, je pense qu'on peut dire que la jeunesse se soucie à la fois de son présent et de son futur, et quand cela, elle veut s'engager, peu importe la forme que cela prend. que ce soit un engagement associatif, politique, artistique. Alors évidemment, ces engagements supposent qu'elle porte en elle une vision et des idéaux. Et elle tente de le faire en conciliant vie de famille, parfois, pour les moins jeunes des jeunes, études, emploi. Donc c'est pas toujours simple de pouvoir concilier l'ensemble de ces activités. Elle a aussi besoin d'aide en s'appuyant sur les lumières du passé, mais elle n'a pas besoin que l'on s'exprime à sa place. Et pour répondre sur la deuxième partie de la question, la franc-maçonnerie accompagne cette démarche, puisque pour les plus jeunes d'entre nous qui rentrons à la Grande Loge de France, La Grande Loge de France exige de ces jeunes. Il y avait une phrase de Jean Guiton qui était membre de l'Académie française et qui écrivait dans Ce que je crois. En Occident, la jeunesse est désemparée. L'une des raisons de son trouble est que l'on n'exige plus assez d'elle. La jeunesse, avec raison, exige qu'on exige. Et finalement, la démarche qui est proposée par le rite ancien et accepté, que l'on pratique à la Grande Loge de France, c'est une démarche qui implique, pour celui qui est initié, une succession d'engagements qui sont des engagements des plus simples à des engagements plus difficiles, en tout cas de nos jours. Ça peut être la ponctualité, l'assiduité, le travail, l'écoute de l'autre et le respect d'une parole donnée.
Et vous concluez même votre propos par ces mots de Simone de Beauvoir dans Les Mandarins. La jeunesse n'aime pas les vaincus. La question de l'âge est vraiment intéressante et c'est ce lien intergénérationnel qui peut s'établir entre les frères, Brice Chatel.
Alors, sur la question de l'âge, d'abord, si la franc-maçonnerie est une possibilité à la fois de se construire, de trouver un sens ou de participer à trouver un sens à sa vie, on considère qu'il faut rentrer le plus tôt possible pour bénéficier de cette construction. Mais la franc-maçonnerie suppose une transmission, la transmission d'une tradition, et donc ce lien intergénérationnel doit être fort pour que ça soit un enrichissement mutuel entre les générations les plus anciennes et les nouvelles générations, pour qu'il y ait un passage de flambeau dans une lutte qui se doit d'être une lutte commune. Mais la jeunesse porte un idéal, a une énergie, et il ne faut pas que ce lien intergénérationnel soit la cause d'une résignation qui serait trop hâtive.
Jean-Michel. Alors oui, moi je trouve que effectivement dans une loge il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, c'est ça qui est extraordinaire. Et puis ce qui apprécie, en tout cas dans notre loge, puisque nous avons pas mal de jeunes dans notre loge à Paris, c'est je crois que justement nous sommes très loin du slogan de McDo. Venez comme vous êtes. Non, on ne vient pas comme on est. On vient d'une certaine façon à égalité avec les autres membres, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. C'est ça qu'ils apprécient. Il y a une différence. C'est cette égalité de comportement face à un rituel qui nous permet ensuite de voir émerger la fraternité.
Jean-Michel Dardot, vous évoquiez déjà tout à l'heure George Orwell, et vous rappelez ces mots que dire la vérité est un acte révolutionnaire. Alors quelle est cette franc-maçonnerie de combat et même de révolution ?
Ah oui, alors aujourd'hui le combat, parce que c'en est un, hein, il ne faut pas se leurrer. Le combat de la fraternité, c'est de défendre une certaine idée de la raison, défendre ce concept de juste mesure dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, qui était déjà pas nouveau, hein, Aristote en parlait déjà. Et puis, puisqu'on parle d'Aristote, on peut remettre au goût du jour ce mot intraduisible de la sagesse antique, qui était, vous savez, cité dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, mais aussi dans le Protagoras de Platon, c'est le mot de Eidos. Un mot intraduisible, difficilement traduisible, mais que nous pratiquons pourtant, nous, francs-maçons. C'est-à-dire, on pourrait qualifier aussi d'honneur, aujourd'hui, de pudeur, de vergogne, ce mot qu'on n'utilise plus que d'une façon négative aujourd'hui. On dit à une personne qu'elle est sans vergogne. Eh bien, l'aïdos, c'est ça. C'est ce qui permet c'est ce qu'il faut faire pour bien se comporter en société, pour être utile aux autres, pour ne pas être mis au banc de la société. L'aïdos, c'est une forme de liberté non individualiste qui permet de débattre fraternellement sur la réalité des choses. En termes plus modernes, on pourrait dire que nous défendons une éthique de responsabilité qui n'est autre que l'altérité, finalement, mise en action. L'éthique de responsabilité, c'est l'altérité mise en action. Une sorte de méta-éthique qui conjugue ce principe de responsabilité avec un principe d'espérance. Et pour ça, il faut accepter avec joie cette spiritualité qui mène au goût de l'effort, à la remise en question, aux engagements, aux serments que nous avons prêtés envers nous-mêmes. Et donc dire la vérité, puisque c'était la question, c'est un peu sortir de cette espèce d'égo-trip pour tenter cette aventure que nous tentons tous avec joie, qui est celle de s'engager authentiquement dans une relation avec l'autre.
Revenons peut-être un peu à l'actualité et à la triste actualité. À plusieurs reprises, cet appel mentionne les noms de Samuel Paty et Dominique Bernard. Samuel Paty, Brice Chatel, que vous évoquiez tout à l'heure, professeur victime de la barbarie dont nous commémorons les assassinats. Pourquoi ces figures incarnent-elles, selon vous, les véritables valeurs de la vraie vie que vous évoquiez et de la fraternité, Jean-Michel Dardot?
Écoutez, mais la vraie vie, c'est la vie d'un professeur qui donne sa vie pour éduquer les enfants. La vraie vie, elle dépasse les idéologies mortifères pour assumer cette vulnérabilité qui peut mener parfois au sacrifice. La vraie vie, c'est celle des héros fragiles que furent nos deux professeurs. La vraie vie, c'est la fraternité physique, loin des réseaux sociaux. Ce ne sont pas des théories fumeuses. La vraie vie, ce sont les paroles de la veuve de Dominique Bernard que j'ai entendue dimanche dernier, qui dit « Je mesure dans ma chair l'importance de la laïcité ». C'est le sacrifice d'Arnaud Beltrame, notre frère. Et plus près de nous, je ne vais pas le citer parce qu'il ne veut pas qu'on donne son nom, mais vous le connaissez bien Clément, un de nos frères qui est rentré le premier dans le Bataclan alors que ça tirait dans tous les sens. Ça, c'est la vraie vie, vous voyez. On est loin, loin des idéologies. Et pour vous avez cité Hubert Germain, voilà un homme qui était dans la vraie vie, le héros de Bir Hakeim.
Merci Brice Chatel et Jean-Michel Dardour pour ce riche entretien et cet appel fondamental de la Grande Loge de France à la fraternité et à la paix. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce texte dans son intégralité sur notre site gldf.org. Très rapidement, quelques actualités de notre obédience. Le nouveau numéro de Point de vue initiatique consacré au thème de la beauté un idéal, point d'interrogation. Le 24 octobre, les petits déjeuners enjeux et perspectives sur le thème la force de croire avec l'écrivain David Milia à Paris à l'hôtel de la Grande Loge de France. Le 8 novembre, une conférence d'Alain-Noël Dubard, ancien grand maître de la Grande Loge de France sur le thème assez original de la symbolique de Tolkien à celle de la franc-maçonnerie à Maintenon-Pierre dans l'Eure-et-Loire. Le 29 novembre, à l'occasion de la Sainte-Cécile, la patronne des musiciens, un grand concert public à Paris, à l'hôtel de la Grande Loge de France, rue Puteaux. Et pour fermer l'émission de ce jour, retrouvons les mots d'Hubert Germain dans son ouvrage « Espérer pour la France ». L'automne arrive, les feuilles vont commencer à tomber, elles ne seront pas mortes pour autant, mais toujours là pour enrichir le sol de nos forêts. Peu à peu, les compagnons disparaissent, mais la marque viscérale de leur sacrifice devra demeurer pour toujours dans la mémoire de la France. Rien ne meurt, tout est vivant. C'était les divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, une émission préparée et présentée par Clément Ledoux, à la prise de son aujourd'hui Noé Chaban et à la réalisation Camille Maty. Très bon dimanche à tous.